Le grand témoin.
Bonjour, avec le même plaisir, pour le même devoir, grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Dr Denis Mukwege, qu'on appelle aussi le réparateur des femmes. Il a reçu plusieurs prix pour sa lutte contre les violences sexuelles faites à la femme, surtout dans le Kivu. Dr Denis Mukwege, c'est un plaisir de vous recevoir dans grand témoin.
Bonjour madame.
Voilà, avec vous, dans notre entretien de tout à l'heure, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en ce moment. Ils sont nombreux à travers la RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Docteur Denis Mukwege, c'est un nom connu. Depuis un certain temps, on parle de vous partout, que ce soit en RDC ou à l'étranger. Alors nous, on va creuser un peu plus sur votre vie. Docteur Denis Mukwege, vous venez d'où? Pourquoi cette brusque apparition de Docteur Mukwege? Et est-ce que vous avez des ambitions politiques? Parce que de plus en plus, on vous voit prendre certaines positions proches de l'opposition. Les gens se posent des questions si vous voulez vous engager officiellement en politique. On va en parler dans cette émission, mais bon, cela va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né en 1955.
Exact.
Où?
À Bukavu.
Et c'est là où vous avez grandi?
J'ai grandi à Bukavu, à l'est du Congo, en République démocratique du Congo.
École primaire secondaire à Bukavu.
École primaire secondaire à Bukavu. Après, j'ai fait 2 ans polytechnique à Kinshasa, avant d'aller au Burundi où j'ai fait des études de médecine et une spécialisation en gynécologie obstétrique en France, à Angers.
Vous commencez par la polytechnique pour vous retrouver en médecine. Qu'est-ce qui explique ce changement?
En fait, je n'avais jamais été destiné à la polytechnique, mais je me suis retrouvé puisque je n'avais pas une inscription en médecine. Et donc, au bout de 2 ans, j'étais certain que je n'étais pas à ma place et j'avais la possibilité d'avoir une inscription là où je voulais finalement être, donc faire la médecine, qui était une vocation depuis mon enfance. Et donc, j'ai quitté le pays pour faire mes études de médecine comme je l'avais toujours souhaité.
Au Burundi, après vos études, vous rentrez à Bukavu?
Après mes études, je rentre pas à Bukavu, mais à l'Emera, dans un hôpital qui est
dans le sud Kivu,
à 120 km de Bukavu, dans le moyen plateau de Donguvira, où il y a un hôpital créé par les missionnaires suédois. Et donc, c'est là où je vais commencer ma carrière comme médecin.
Donc, vos premiers pas professionnels à l'hôpital de l'Emera. Puis, vous obtenez une bourse pour une spécialisation.
Effectivement, lorsque je suis à l'hôpital de l'Emera, je découvre finalement le drame de la femme. Donc, les femmes qui venaient, qu'on nous amenait sur des brancards, mais qui étaient exsangues. Donc, en fait, on venait juste à l'hôpital pour constater la mort. Ça, pour moi, c'était un choc que les femmes puissent mourir en donnant la vie. Et donc, j'ai senti une certaine responsabilité de pouvoir faire quelque chose pour lutter contre ce fléau de la mortalité maternelle.
Et c'est comme ça que vous avez opté?
J'ai opté donc pour faire la gynécologie obstétrique. Et là, peut-être, si j'ai révélé sur la chose, c'est que j'avais fait ma thèse en pédiatrie, donc sur la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Et donc, cette thèse m'orientait vers la pédiatrie. Mais quand j'avais constaté ce que j'avais vu à l'hôpital, je me suis orienté autrement.
Et c'est ça le déclic, vous devez me concentrer sur la femme.
En fait, j'avais compris qu'on ne peut pas avoir des enfants sains si on n'a pas des mères saines. Donc il faut d'abord s'occuper de la mère qui s'occupe après des enfants. Donc c'était une logique tout à fait. Donc on ne peut pas se battre pour avoir des enfants alors que celle qui procrée meurt en procréant.
Docteur Mukwege, vous avez grandi dans quelles conditions?
Moi, j'ai grandi dans... Mon père était un pasteur, il était aussi aumônier de l'ANC, donc de l'armée nationale congolaise. Donc mon enfance, c'était vraiment une enfance qui était encadrée, si je peux dire ainsi, par les activités de mon père, qui étaient des activités pastorales.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, je déteste le mensonge, le manque d'intégrité. Je trouve que quand quelqu'un ne peut pas être intègre, pour moi c'est dégoûtant. Je crois que l'homme doit être intègre dans ce qu'il fait.
Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a marqué pendant votre enfance, votre jeunesse?
Je dois dire qu'un souvenir qui m'a marqué et qui fait que j'ai pris d'ailleurs la décision de devenir médecin, c'est un jour j'accompagne mon père qui va voir un enfant qui était malade, et donc je vois que mon père il avait prié, et puis après avoir prié il voulait partir. Moi je lui avais dit: papa, vous ne pouvez pas partir comme ça, quand moi je suis malade vous arrêtez pas seulement à prier, vous me donnez un médicament. Pourquoi cet enfant qui est en train de mourir, il convulsait cet enfant? Je peux me rappeler très bien, il faisait une fièvre et il convulsait. Donc j'ai dit à papa: mais vous n'avez pas terminé votre boulot. Et mon papa va me dire: mais moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas donner les médicaments. Je pense que ça a été le premier déclic, d'abord de l'injustice, où je vois que moi quand je suis malade, mon père me donne le médicament, il prie pour moi. Et pour cet enfant, il donne seulement la prière et puis il ne donne pas les médicaments. Je ne comprenais pas pourquoi il doit faire la différence.
Cette différence-là.
Et sa réponse, c'était une réponse qui m'a orienté en me disant que lui n'est pas médecin. Je dis: alors moi je vais faire la médecine, comme ça je vais donner les médicaments
et vous allez prier.
Vous allez prier. Et voilà, c'était parti comme ça, j'avais du temps. Et donc tout ce que j'avais fait, après j'ai fait l'école primaire, j'ai fait l'école secondaire, puisque je voulais absolument un jour devenir médecin. On m'a conseillé
de faire la biochimie
aux humanités, voilà, exactement. Et donc de la biochimie, je me suis retrouvé en polytechnique. Bon, c'était une déviation. Bon, j'ai fait quand même un effort, puisque j'espérais que j'aurais toujours la possibilité d'échanger.
Après, vous avez retrouvé vos premiers amours qui étaient...
Voilà, exactement, donc la médecine. Et là, je vais faire la médecine. Quand j'avais choisi le sujet de ma thèse, c'était un sujet de thèse de pédiatrie. Donc j'étais dirigé par le pédiatre, le docteur Perrin, qui était mon patron des thèses. Mais quand je termine et que je suis maintenant, je commence à pratiquer, je réalise que les enfants, les mères sont en train de mourir, et donc sans les mères, il n'y a pas les enfants. Et donc j'ai dit, écoutez...
Comment faire pour sauver et l'enfant et la mère?
Il faut faire la gynéco-obstétrique.
Voilà.
Et là, j'obtiens une bourse qui m'amène en France. Et j'y passe.
Vous faites votre spécialisation
en gynéco. Gynéco-obstétrique.
Et en 2015, vous accédez au grade de docteur en sciences médicales.
Bon, voilà, c'est la
continuité.
C'est la continuité. Donc, vous êtes gynécologue obstétricien. J'arrive au Congo. J'ai cet enthousiasme de soutenir. J'ai créé une école de sages-femmes ou d'accoucheuses. Je suis dans une zone de santé. Il n'y a pratiquement rien. Et on commence à construire des centres de santé également. Et là, effectivement, vraiment, l'objectif, c'est lutter contre la mortalité maternelle. Et je commence à voir les résultats. Le fait que les accoucheuses, les sages-femmes que j'avais formées, elles avaient compris qu'il faut suivre la femme, pas quand elle vient en salle d'accouchement, mais il faut la suivre quand elle est enceinte et pouvoir l'aider en fait à dépister s'il y a des pathologies, s'il y a des maladies. Vraiment, je trouve très très intéressant. Et là, subitement, la guerre arrive.
Mais avant la guerre, après votre spécialisation, vous avez travaillé en France?
Oui, j'étais donc à Angers, j'avais un poste de praticien hospitalier, donc je travaillais comme gynécologue obstétricien.
Vous étiez bien rémunéré.
Absolument.
Et puis un beau jour, vous rêvez, vous dites: je vais rentrer chez moi au Congo.
Je crois que j'étais parti en France avec un objectif. Donc je ne partais pas en France pour le salaire, je ne partais pas en France pour gagner ma vie. J'ai parti en France puisque j'avais besoin des connaissances nécessaires pour résoudre un problème. Donc il y a un problème qui se pose. À ce moment-là, je décide de faire l'obstétrique. Et donc c'est vrai que je vais trouver la sympathie du professeur Grosjeux, du professeur Lelirzin, qui était mes patrons. Et là, j'avais eu un poste de praticien hospitalier à l'hôpital. Donc je gagnais très très bien ma vie, mais ce n'était pas l'objectif premier.
Votre objectif était aller apprendre et venir pratiquer au Congo pour aider toutes ces femmes qui meurent à l'accouchement.
Ouais.
En 96, la guerre éclate.
Donc en 96, malheureusement,
la première guerre
du Congo éclate. Et là, ça va être un drame dans ma vie, puisque
l'hôpital va fermer.
Non, ben, attaché à mes malades, quand il y avait le prodrome de la guerre, moi, je disais aux malades, vous savez, l'hôpital, c'est un endroit safe, donc vous restez à l'hôpital, vous allez être protégé, personne ne peut vous toucher quand vous êtes à l'hôpital, moi je ne vous quitterai pas, je serai avec vous là. Et malheureusement, un de nos techniciens chez nous tombe malade, qui fait une thrombophlébite, il fallait l'évacuer, qui retourne en Suède pour les soins. Et quand je quitte l'hôpital pour l'amener à l'aéroport, derrière moi, l'hôpital est attaqué et tous mes malades qui n'ont pas pu fuir sont abattus dans l'air. Les infirmiers qui étaient à l'hôpital ont été abattus en faisant leurs tâches. Et ça, c'était un drame pour moi. C'était une déchirure. On ne pouvait pas imaginer. J'avais promis de protéger. J'avais promis. J'ai encore l'image de deux femmes que j'avais ramenées la veille de Bukavu à l'Emera pour les opérer. Je n'ai pas pu rendre ces femmes à leur famille. C'était
un drame. Trop dur.
C'était trop dur.
Un choc.
Ça m'a pris pratiquement une année avant que je me remette de mon choc.
Bon, vous êtes réfugié à Nairobi?
Je me suis réfugié à Nairobi avec ma famille, mais de Nairobi...
En parlant des familles, vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Je suis marié, père de 5 enfants, 10 enfants.
Ok.
J'en ai 8.
Ah, j'ai déjà une grande famille.
Comment donc?
Alors, vous vous réfugiez à Nairobi?
Et donc, je me réfugie à Nairobi, mais quand j'arrive à Nairobi... Je suis pris par cette image de marée humaine que j'avais laissée, de gens qui s'enfonçaient dans la forêt équatoriale à partir de l'aéroport de Kavumu, et donc pour aller vers Bukavu-Kisangani, 700 km, j'arrive à Nairobi, et puis je me dis, mais c'est pas possible, donc je ne peux pas rester à Nairobi. La scène que j'ai vue à l'aéroport, il n'y avait plus d'avion pour amener les gens qui voulaient fuir pour venir à Kinshasa ou aller dans d'autres villes du Congo. Et donc, directement, je me dis, il faut faire quelque chose. On arrive au siège des Nations Unies, je fais une conférence de presse et j'annonce que la ville de Bukavu s'est vidée, mais malheureusement, les gens ils prennent la direction de Kisangani. Et la direction de Kisangani, c'est 700 km à pied, sans eau, sans nourriture. Ça risque d'être un drame. Donc, et là, je reçois de l'organisation d'une organisation suédoise et norvégienne, un avion qui m'amène sur cette route-là pour voir exactement quelle est la situation des gens qui ont fui et qu'est-ce qu'on peut faire.
Donc, le calvaire de toutes ces personnes qui allaient à Kisangani vous a poussé à,
donc, tout à fait
mettre en place un hôpital.
Voilà, donc je vais faire l'exploration. Je suis arrivé ici à Kinshasa.
Alors vous voyez les autorités à Kinshasa,
voilà,
pour avoir les autorisations.
Oui, effectivement, pour avoir les autorisations. Et là, je tombe sur une personne qui connaît très très bien le sud Kivu, donc le ministre du transport à l'époque, Mando Timba, qui fait tout pour que j'obtienne ces autorisations. Et une semaine après, je commence à faire atterrir les avions d'aide humanitaire à Kisangani. Et à Kisangani, donc je me rends maintenant sur la route vers Marikale, Lubutu Tingitingi, où on trouve des centaines de milliers de personnes dans un état de fatigue inexplicable. Donc,
est-ce que c'était suffisant pour toutes ces personnes qui fuyaient?
On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On donnait de l'eau d'abord, parce que en fait, ces personnes mouraient de soif. Et puis, on avait des biscuits protéinés. Donc, on pouvait avoir des biscuits protéinés. On a fait ce qu'on pouvait.
Alors, docteur Mukwege, parlez-nous de la création de l'hôpital de Panzi.
Et donc, l'hôpital de Panzi, une année après, je retourne à Bukavu, et là, je constate que le problème reste le même. Et donc, j'essaie de trouver des solutions, et je décide alors de créer un hôpital. Il n'y avait pas d'hôpital à Panzi à l'époque, donc on a d'abord installé des tentes, ça c'est en 1998, mais ces tentes malheureusement la deuxième guerre du Congo, toutes ces tentes vont être également détruites et le matériel pillé. Je me trouve devant une situation très très complexe. Donc,
et comment vous vous en sortez?
À ce moment-là, je n'abandonne pas le projet. C'est un projet qui me tenait à cœur et donc je dis, il faut absolument trouver une solution. Et donc, Robolote, je recommence donc une année après. Et en 1999, septembre, le 1er septembre, j'arrive quand même à opérer une première patiente dans des bâtiments qui étaient abandonnés, que nous avons réfectionnés. Et donc, les bâtiments, un a servi de salle d'accouchement, l'autre, le bloc opératoire. Et donc, nous avons démarré l'hôpital de Panzi de cette façon, dans des conditions rocambolesques.
Et dans la plupart de vos interviews, vous dites que c'est là que vous avez découvert une pathologie nouvelle qui va profondément marquer les restants de votre carrière.
Absolument. Je crois que là, comme je venais de vous dire, ça faisait environ 15 ans que j'étais dans la région et donc je connaissais parfaitement la pathologie des femmes que je soignais. J'étais pratiquement le seul gynécologue dans la région, donc j'avais les confrères m'envoyaient tous les cas pathologiques. Et malheureusement, la première victime que je vais soigner, le 1er septembre 1999, c'est une femme qui avait été non seulement violée, mais après avoir été violée, on avait tiré dans son appareil génital, et donc elle avait vraiment des fractures, etc. Et donc, à ce moment-là, je pense que c'est une barbarie humaine, mais je ne réalise pas les drames qui commencent.
Et comme ça, vous avez soigné plusieurs femmes qui se retrouvaient dans les mêmes cas que votre première patiente.
Absolument. Au bout de 3 mois, je réalise que je venais de soigner 45 patientes dans la même condition, c'est-à-dire des femmes qui viennent et qui racontent la même histoire. J'ai été violée après avoir été violée. Mes agresseurs se sont attaqués à mon appareil génital où ils ont introduit ou tiré, etc. Et donc là, je commence, après 45 cas quand même, je commence à réaliser que ce n'est pas accidentel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer.
C'était fait sciemment, c'était voulu.
Voulu sciemment. Et donc, je constate que c'est vraiment une nouvelle pathologie, donc viol avec extrême violence.
Et ces femmes, vous les soignez gratuitement?
Elles étaient toutes soignées gratuitement.
Sans sortir même un seul rang?
Pas un seul rang.
Comment vous faites fonctionner votre hôpital?
Je dois dire qu'aujourd'hui, nous fonctionnons beaucoup plus avec l'aide et le soutien extérieur.
Mais avant, ça se passait comment?
Avant, effectivement, lorsque quelqu'un vient en train de saigner, vous ne demandez pas à qui la personne paye. Vous soignez d'abord des lésions que la personne porte. Je crois que c'est la déontologie de la profession qu'il exige.
Et les personnels qui travaillaient chez vous étaient rémunérés comment?
C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'hôpital de Panzi, c'est un hôpital général de référence, qui ne fait pas que des traitements de victimes de violences sexuelles et qui ne faisait pas que des traitements de victimes de violences sexuelles. On fait des accouchements, on fait d'autres interventions, on soigne des maladies diverses et c'est les autres malades payent.
C'est seulement les victimes de violences sexuelles qui ne payent pas.
À l'hôpital de Panzi, tous les malades qui sont victimes de violences sexuelles ne payent pas un seul rond. Tous les malades qui ont le VIH-SIDA, nous les prenons en charge totalement. Et tous les enfants mal nourris, nous les prenons en charge totalement. Et ça, ce sont des catégories en fait, qui font des maladies liées à la pauvreté.
Alors, docteur Denis Mukwege, en 2012, vous êtes victime d'une agression.
Oui, malheureusement, en 2012, je suis victime d'une agression qui va m'obliger de quitter le pays.
Il y a des gens qui vous en voulaient?
Moi, je ne peux pas répondre à cette question. De toute façon, s'ils ont enlevé la vie à Jeff, je crois que pour moi, c'était très très grave. Même si vous en voulez à quelqu'un, l'en vouloir jusqu'à enlever la vie, je pense que c'est fort. Je crois que parfois, les gens, vous ne pouvez pas mesurer d'être avec quelqu'un à côté de vous, quelqu'un qui essaye de vous protéger et qui sait que cette personne se fasse tuer, c'est un drame.
Qu'est-ce que vous avez fait son fille en ce moment-là? Lorsque vous avez échappé à cette agression?
Je crois que j'étais dans un état de choc et c'est vrai.
Vous n'avez pas pensé à un moment arrêter
Non, non, j'avais quitté le pays. J'avais pensé que c'était plus possible de continuer à travailler dans les conditions où la vie n'a pas de valeur, où les gens tuent sans raison, où finalement je ne me reprochais de rien par rapport à ce qui autour de moi, et je n'avais pas compris pourquoi cet acte barbare devrait venir me trouver pratiquement dans mon salon.
On va souffler un peu, docteur Denis Mukwege. Comment vous passez vos moments de détente?
J'aime bien me promener en pleine nature. J'aime bien aussi, je fais un peu du sport.
Quel sport?
Je marche et vélo.
La musique, ça vous arrive de temps en temps d'écouter?
De temps en temps, quand je suis très fatigué, j'écoute plutôt pour me détendre.
Pour déstresser, pour relaxer un peu. Quel genre de musique?
J'aime bien la musique religieuse.
De qui, par exemple?
Je peux vous dire qu'il y a la musique qui a bercé mon enfance. Ça s'appelle, en français, c'est les chansons du salut. J'aime bien ça.
Et la musique dite mondaine, vous n'écoutez pas?
Bon, je crois qu'il y a très peu de musique mondaine qui m'inspire de temps en temps. C'est pas... voilà. Mais j'aime bien quand je vais me relaxer, j'aime bien écouter par exemple de la musique des cantiques des cantiques, on les appelle des cantiques des cantiques.
On va demander à la technique de nous balancer une petite musique pour faire plaisir à Dr Denis Mukwege. On se retrouve juste après pour la suite de notre entretien.
Love is all we need. parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Docteur Denis Mukwege, alias le réparateur des femmes, est celui que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. Il est gynécologue et fondateur de l'hôpital d'Epinzy. Docteur Denis Mukwege, qu'est-ce qui explique que c'est finalement en 2011, hein, si j'ai bonne mémoire, qu'on a commencé à beaucoup parler de vous, alors que vous avez commencé ce combat depuis longtemps?
2011. Bon, je pense qu'effectivement, il y a eu quelques événements qui ont fait que peut-être on puisse parler de moi, c'est que peut-être quand j'avais eu le prix des Nations Unies pour le droit de l'homme, c'est un prix qui est donné tous les 5 ans, je crois qu'il y a eu des gens qui ont vu ce qu'on faisait et qui ont pensé que ça méritait ce prix, et je crois que ce prix a été pour quelque chose que les gens commencent à parler de notre travail.
Vous avez dénoncé toutes ces violences sexuelles dans le Kivu.
On n'a pas seulement dénoncé, mais on les a fait
plaidoyer.
Voilà. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais choqué par... Quand j'avais soigné pour la première fois, la fille qui était née à l'hôpital de Panzi, issue du viol, quand j'étais obligé, elle aussi, de la soigner puisqu'elle était violée, je crois que là, j'ai décidé de commencer à faire le plaidoyer.
Vous avez remporté plusieurs prix, docteur Mukwege. On va parler du prix Sakharov qui a fait quand même beaucoup de bruit à travers le monde. Le dernier prix que vous avez reçu, c'est en 2016, le prix Héros pour l'Afrique.
Oui.
Rémi par.
Et c'était un prix qui m'a été remis par la fondation créée par Bouamoto, qui est un Mauritanien qui vit aujourd'hui au Maroc. Et je crois que c'est un Africain qui veut faire avancer la cause de l'Afrique.
Aujourd'hui, toutes les chancelleries sont derrière Denis Mukwege, les pays européens sont derrière Denis Mukwege. Comment on peut comprendre cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cacherait derrière toutes ces invitations, ça et là?
Je ne sais pas s'il y a à comprendre. Je crois que la lutte que je mène, peut-être, elle n'est pas très très bien comprise au Congo, mais les femmes qui souffrent, c'est les femmes de partout au monde. Il y a le problème des viols et des violences qui sont faites aux femmes. Dans 3 jours, je pars en Colombie pour une conférence, mais aussi pour des échanges avec les femmes colombiennes qui souffrent de la même chose que les femmes congolaises
Vous voulez dire qu'au Congo, on ne comprend pas beaucoup votre combat?
Et puisque parfois on pose cette question, pourquoi les chancelleries des autres pays vous invitent, pourquoi les prix, et ils ne comprennent pas qu'en fait c'est une lutte que nous devons mener tous, puisque c'est une lutte qui touche à notre propre humanité, puisque je crois que protéger la femme, c'est nous protéger nous-mêmes.
Certaines personnes disent même que vous êtes utilisé par tous ces pays européens, toutes ces chancelleries, pour vous préparer aux prochaines échéances électorales, c'est-à-dire à l'élection présidentielle prochaine.
Bon, j'ai 60 ans, je pense que je sais ce que je veux dans ma vie, et donc je ne pense pas que les gens vont me faire ce que je ne veux pas faire. Si je fais quelque chose, donc j'ai la conviction de ce que je fais.
Mais pourquoi vous ne faites pas ces plaidoyers auprès du gouvernement congolais?
Je l'ai fait.
On vous a vu rarement quand même avec les autorités congolaises, docteur Mukwege.
Je ne force pas.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que ce que j'ai fait, je l'ai fait au grand jour, Et donc l'hôpital dépend ici un hôpital intégré, donc un hôpital général de référence de la zone de santé de Banda, qui est dans les systèmes de soins, dans les systèmes de soins de la République démocratique du Congo. Donc,
mais lorsque vous dites, je ne pense pas, ça veut dire que
les autorités congolaises
vous ont fermé la porte, ont refusé de vous recevoir.
C'est pas ce que j'ai dit, mais j'aurais souhaité que l'engagement soit beaucoup plus concerté.
Mais est-ce que vous êtes allé vers ces autorités, vers le gouvernement?
J'y vais régulièrement. Quand j'ai eu le prix des droits de l'homme, je suis venu ici à Kinshasa. Je ne suis pas allé directement à Bukavu. J'avais pensé que c'est... Je crois que c'est un prix qu'on a donné aux Congolais pour la lutte que nous menons contre les violences sexuelles et tout ce que nous essayons de pousser par rapport à ce fléau qui est un fléau global. Ce n'est pas, je reviens, le grand problème, c'est que parfois il y a des gens qui essayent en fait de spécifier comme si les violences sexuelles c'était une question congolaise. C'est un Congolais peut-être qui portait la voix, mais portait la voix de toutes les femmes qui souffrent de ces fléaux, et ces femmes sont partout.
Docteur Mukwege, gynécologue, depuis un certain temps, vous prenez de plus en plus des positions politiques. Est-ce qu'on peut comprendre par là que vous avez envie, vous avez des ambitions politiques?
Non, je prends des positions citoyennes. Je crois que je suis convaincu que j'appartiens à cette nation. Je vis, je suis congolais, je dois... J'ai l'obligation, je n'ai même pas le choix, j'ai une obligation de défendre la cité.
Mais avant, vous ne le faisiez pas.
Je l'ai toujours fait. Peut-être que ma voix peut peut-être porter plus loin aujourd'hui, mais si vous suivez, et vous avez suivi mon parcours, quand je lutte contre la mortalité maternelle, je lutte contre un mal dans ma société.
Voilà, là, c'était sur un domaine propre à vous, médecine. Mais la médecine. Aujourd'hui, vous vous prononcez sur les questions politiques, par exemple le dialogue, vous avez donné votre point de vue, les arrestations des jeunes.
De la lutte.
Vous avez donné votre point de vue.
Je suis un citoyen et je pense que vous ne pouvez... Si vous pensez qu'être citoyen, c'est être passif, lorsque on arrête des jeunes qui demandent tout simplement c'est que la Constitution soit respectée et que moi je me taise en disant que ce n'est pas mon problème, c'est pas correct. Je crois que nous sommes des citoyens, mais il faut que nous ayons l'espace des libertés de parole où on peut dialoguer, où on peut discuter, parler de nos problèmes pour pouvoir trouver des solutions. Et je crois que ça, c'est cette conception de penser que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, donc automatiquement vous devenez politicien, vous devenez opposant, vous prenez la position des opposants. Les opposants peuvent avoir des raisonnements qui sont cohérents, qui sont clairs, et je peux partager l'avis d'un opposant si son raisonnement correspond à ma façon de voir. Et je ne suis pas obligé de partager l'avis du gouvernement si je ne suis pas d'accord. C'est ça la démocratie, madame. S'exprimer, donner son point de vue et même en s'exprimant, garder la bonne relation. Parce que je pense que lorsqu'on fait un débat contradictoire, on ne devient pas ennemi. Moi, j'ai ma façon de voir, j'ai ma façon de comprendre, c'est ma façon. Je n'oblige pas les autres d'accepter forcément ce qui je n'oblige pas les autres d'entrer dans ma conviction, mais je ne peux pas non plus accepter qu'on m'oblige aussi d'entrer dans un concept que je n'accepte pas. Si c'est ça que vous appelez opposition, moi j'appelle ça être citoyen.
Alors, tout à l'heure, vous venez de dire que lorsqu'il y a des problèmes, il faut dialoguer, mais vous êtes contre le dialogue que le président propose.
Quand vous dialoguez sur une question, il faut absolument que, l'ordre du jour soit clair, que l'agenda du dialogue soit clair.
Mais c'est clair, on va parler du processus électoral.
Processus électoral, moi je trouve que toutes les questions qui sont évoquées, ce sont des questions techniques, et donc il y a les règles qui sont fixées, comment on fait un fichier électoral, on ne va pas dialoguer, on ne va pas changer comment on enregistre les gens. Je ne vois pas ce qu'on va discuter par rapport à ça. Si on dit que sur l'agenda, il faut discuter sur le financement des élections, qu'est fait le Parlement ? Le Parlement, normalement, vote le budget, et donc ils doivent prévoir le budget pour faire les élections. Si on dit la sécurité des élections, nous avons droit à une sécurité, pas seulement pendant les élections. Donc nous devons être protégés, sécurisés à tout moment. Et donc la sécurité des élections, on doit y penser, pas la veille des élections, mais on doit y penser bien avant. Madame, je crois que lorsqu'on discute des fichiers électoraux, je crois que c'est de ça qu'on parle. Quel est ce jeune qui a l'âge de voter, à qui on va refuser de voter? Il ne faut pas y penser la veille des élections, il fallait y penser avant. Et tout, je trouve que tout ça sont des questions techniques, et on dit dialoguons, mais au même moment, il n'y a rien qui est fait pour que ces questions, on voit qu'on est en train de les résoudre. Et donc, on est en train de discuter du dialogue qui n'est pas constitutionnel, et on sort de la Constitution. Moi, je respecte les règles. Quand je vous dis A, c'est A, et B, c'est B. Et je pense que nous avons un cadre qui est la Constitution, et ce cadre-là doit être respecté, à mon avis. Les questions techniques doivent être traitées par ceux qui sont supposés traiter ces questions. Et je crois que pour ça, je suis plus que clair.
Alors, beaucoup de gens se posent la question, pourquoi on vous voit trop avec l'opposition plutôt qu'avec la majorité présidentielle? C'est un choix que vous avez fait?
Je n'ai pas fait le choix, mais si quelqu'un vient me voir, je ne dis pas non. Et celui qui ne vient pas me voir, je ne fais pas un cri pour dire pourquoi il ne veut pas me voir. C'est un choix. Mais qu'est-ce que vous appelez la démocratie, madame? La démocratie, c'est un choix. Moi, je pense que si quelqu'un vient me voir, je le reçois. Celui qui ne vient pas me voir, c'est son choix, je le respecte. On n'est pas obligé de forcer la relation avec quelqu'un qui ne veut pas. Moi, je trouve qu'il faut être ouvert, et cette ouverture, si ce sont des gens de l'opposition qui viennent me voir, je ne peux pas les chasser.
Alors, de plus en plus, il y a des rumeurs qui circulent sur une possible candidature de Dr Mukwege en 2016. Vous avez des ambitions de vous présenter?
Vous avez très bien dit, ce sont des rumeurs.
C'est à vous de me confirmer ou d'affirmer.
Gérer les rumeurs. Mais moi qui vous parle, je n'ai jamais dit que j'étais candidat. Et je crois que...
Est-ce que vous pensez quand même à ça?
Mais pourquoi vous allez me poser la question de si je pense à ça? Moi, je vous dis, je suis citoyen et j'exerce tous les droits d'un citoyen. Aujourd'hui, je ne suis pas candidat. Je n'ai jamais dit que je serai candidat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo.
Ben, jusqu'à aujourd'hui,
retenez ça. Il faut retenir ce que je vous dis. Et c'est très clair. Je crois que ne spéculons pas, puisque ça ne sert à rien. Je ne suis pas candidat à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, mais je suis un citoyen congolais qui a droit à s'intéresser à la vie politique de son pays. Et je l'ai fait en toute indépendance, puisque cette indépendance m'est garantie par la Constitution. C'est aussi clair que ça.
C'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, Dr Denis Mukwege. Un dernier mot peut-être à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Kati, à travers toute la RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet, et surtout à toutes ces femmes qui ne jurent que par votre nom, toutes ces femmes qui sont à Bukavu, toutes ces femmes qui sont dans des villages éloignés, qui subissent des viols tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui, docteur, et même à tous ces Congolais en général qui vous suivent? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je suis vraiment admirateur de ces femmes. À Bukavu comme à Kinshasa. Je viens de passer 3 jours à Kinshasa, et je pense que j'ai de plus en plus la conviction que les femmes congolaises, leur force sera déterminant pour changer la situation. Je suis admirateur des femmes congolaises. Leur courage m'a toujours, toujours servi comme carburant dans ce que je fais, puisque je trouve qu'elles ont un courage exceptionnel. Elles ont la volonté de réussir. Et donc, je dis bravo aux mamans congolaises.
Merci beaucoup. Moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr Denis Mukwege, qu'on appelle aussi le réparateur des femmes. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la prise de son, au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocatu.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.